Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue. La Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Bonsoir, pour l'horizon de l'actualité dans le monde avec Idriss Fall. En Centrafrique, une faction de l'ex-coalition rebelle Séléka ne reconnaît pas l'accord de cessation des hostilités signé le 23 juillet à Brazzaville. Le communiqué du général Joseph Zoundeko, chef militaire de l'ex-coalition, affirme que l'état-major de l'ex-Séléka ne se reconnaît pas dans l'accord mais se dit disposé à discuter. Dans le nord-est du Mali, la gendarmerie française a annoncé la fin de l'enquête et de la collecte des restes humains sur le site du crash de l'avion d'Algérie qui s'est écrasé le 24 juillet, faisant 116 morts. Et c'est une première étape en vue de l'identification des victimes. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont décidé hier d'imposer un cordon sanitaire autour de l'épicentre de l'épidémie d'Ebola lors d'un sommet à Conakry. Le docteur Kent Bradley, un des deux Américains infectés par le virus au Libéria, est arrivé aux États-Unis par un avion sanitaire. Il sera en isolement dans un hôpital d'Atlanta, en Géorgie. L'autre malade, Nancy Whiteball, une aide-soignante, sera ramenée aux États-Unis dans quelques jours. Depuis le début de l'année, la fièvre hémorragique Ebola a fait plus de 700 morts au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée voisine. Le président ougandais Yoweri Museveni vient à Washington pour participer mardi au sommet États-Unis-Afrique avant de quitter Kampala. Il a assuré que l'annulation hier par la Cour constitutionnelle d'une loi anti-homosexuelle n'a rien à voir avec sa venue à ce sommet. En Libye, le nouveau Parlement issu des élections du 25 juin a tenu une première réunion consultative à Tobrouk dans l'est du pays. Le Parlement va entrer en fonction alors que le pays s'enfonce dans le chaos. Les deux plus grandes villes, Tripoli et Benghazi, sont le théâtre de combats meurtriers. Plusieurs pays ont évacué leurs ressortissants. Israël a décidé de ne pas envoyer de négociateurs au Caire après avoir accusé le Hamas d'avoir violé ce qui devait être une trêve de 72 heures. Ce cessez-le-feu, à peine proclamé hier, a été suivi de bombardements et tirs de roquettes. Le président égyptien Abdallah Fattah el-Sissi a estimé samedi que ce plan représentait une réelle chance pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza. Plus de 1650 Palestiniens ont été tués et côté israélien, 63 soldats et 3 civils. Dans l'est de l'Ukraine, une trêve dans les combats a permis aux experts internationaux de retourner sur le site du crash de l'avion malaisien. Pour la seconde journée consécutive, les experts hollandais et australiens essaient de collecter les restes de 298 passagers tués pendant le crash il y a 2 semaines. Barack Obama dit avoir téléphoné à son homologue russe Vladimir Poutine pour lui exprimer son inquiétude sur le soutien grandissant de Moscou aux séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Et Barack Obama, dans son allocution hebdomadaire, dit que les républicains de la Chambre ont voté cette semaine pour le poursuivre en justice, l'accusant d'agir seul par décret. Puis, selon le président, ils se sont offerts 5 semaines de vacances en laissant derrière eux les affaires qui préoccupent les Américains. Le républicain Greg Walden, représentant de l'Oregon, répond que le président est déconnecté alors qu'il devait diriger le pays. En Chine, une explosion est survenue dans une usine et a fait au moins 68 morts et 187 blessés. Et les secours ont poursuivi sans grand espoir leur recherche dans un village de l'ouest de l'Inde. Des dizaines de personnes sont englouties depuis mercredi par un énorme glissement de terrain. Le bilan, au moins 76 morts, pourrait augmenter. Et dans le nord-est du Népal, les pluies diluviennes ont provoqué des éboulements de terrain qui ont fait au moins 8 morts et plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Ce courant pourrait être aussi révisé à la hausse car plusieurs maisons sont encore ensevelies par la boue non loin de Katmandou. C'est la semaine de l'allaitement maternel du 1er au 7 août pour aider à améliorer la santé des bébés.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30, TU.
Washington, la voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un magazine que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres. Tout d'abord, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé un plan d'urgence de 100 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest.
La prise en charge ou la gestion des corps des personnes décédées doit être faite d'une manière extrêmement prudente pour éviter toute nouvelle transmission de la maladie vers d'autres.
Le docteur Bart Jensen, directeur des opérations de Médecins sans frontières, évoquera certaines des mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie. Un nouvel anniversaire et un nouveau record pour le robot Opportunity de l'Agence spatiale américaine, la NASA, qui sillonne la planète Mars depuis janvier 2004.
Opportunity, qui avait été conçu pour se déplacer à environ 1 km de distance du site où il s'était posé sur Mars, vient d'établir un nouveau record de distance pour un véhicule roulant sur une autre planète que la Terre.
Morgan Guiriec aura tous les détails et Jacques Aristide nous expliquera pourquoi, sans le désert du Sahara, les îles Bahamas dans la mer des Caraïbes n'existeraient pas. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé un plan d'urgence de 100 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola qui prend de l'ampleur en Afrique de l'Ouest. La directrice de l'OMS a participé vendredi à un sommet régional à Conakry, réunissant les chefs d'État de Guinée, Libéria, Sierra Leone et Côte d'Ivoire. Ensemble, ils ont lancé un nouveau plan de lutte contre la fièvre à Ebola. Selon le docteur Margaret Chen, les nouveaux fonds alloués à la lutte contre la maladie sont justifiés par l'ampleur de l'épidémie qui totalise plus de 1300 cas et a provoqué au moins 729 décès. Ce plan de 100 millions de dollars vise à déployer des centaines de travailleurs supplémentaires pour renforcer ceux déjà sur le terrain, dont 120 employés de l'OMS. Les pays ont identifié leurs besoins, a précisé le Dr Chen. Par ailleurs, le directeur des centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies américains, le Dr Tom Frieden, a annoncé l'envoi en Afrique de l'Ouest de 50 experts en plus au cours des 30 prochains jours. Il a estimé qu'il faudra entre 3 et 6 mois pour enrayer l'épidémie. Ici Washington, la voix de l'Amérique, il se pourrait qu'on s'oriente vers une percée dans la lutte contre le virus de l'Ebola. Un laboratoire médical de l'État du Colorado, ici aux États-Unis, est en train de développer un test de terrain rapide et fiable pour détecter le virus de l'Ebola. Les études sont si prometteuses que les instituts nationaux de la santé aux États-Unis ont offert une subvention de 2,9 millions de dollars au laboratoire. La nouvelle a été très bien accueillie en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest où la maladie a déjà fait donc plus de 700 morts cette année. Pour le docteur Mamadi Koulibaly, directeur du Centre international des infections tropicales en Afrique de l'Ouest, l'avènement d'un test fiable est un réel motif d'espoir.
Cela répond effectivement à un besoin chez nous. Nous en avons cruellement besoin. Seulement, il faut dire que Colorado, la Guinée, c'est déjà la distance de ce que on a besoin d'un laboratoire de proximité, ce qui serait encore plus adéquat.
Mais est-ce que les tests qui se faisaient avant n'étaient pas adéquats sur le terrain?
Les premières échantillons que nous avons prélevés depuis l'apparition de cette terrible maladie, ces échantillons ont été transférés et les analyses ont eu lieu seulement en France et à Dakar. Et c'est là-bas qu'on a pu dépister le virus en cause. Véritablement, ici, dans mon laboratoire, on ne procède pas au dépistage sur le terrain. Mais je dois vous dire que les autorités au plus haut niveau ont pris le problème très au sérieux et dans quelques jours, on doit relancer la construction d'un laboratoire qui est à vocation sous-régionale et je pense que cela pourra répondre effectivement à des besoins d'analyse adéquates et urgentes sur le terrain.
Alors, selon vous, pour qu'un test soit crédible sur le plan scientifique, quelles caractéristiques doit-il avoir?
Puisque nous sommes en zone tropicale, il faut d'abord exclure tous les autres cas de fièvre qui sont très abondants chez nous, des procédés exclusifs auxquels il faut souscrire d'abord, c'est-à-dire il faut exclure le cas de paludisme, il faut exclure le cas de typhoïde, il faut exclure le cas de fièvre jaune, il faut exclure tant d'autres cas pour maintenant tenir en suspicion la fièvre Ebola.
Le docteur Mamadi Kouli, il était joint en Guinée par Jean-Roger Bion. Ici Washington, Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Toujours concernant l'épidémie d'Ebola, eh bien, en Afrique de l'Ouest, les responsables sanitaires placent les populations sur pied d'alerte, surtout depuis le décès d'un Libérien qui avait pu gagner le Nigeria avant d'y mourir de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Au Bénin, signale notre correspondant Peggy Ludovic Dagba, les autorités s'activent pour mettre en place un mécanisme de prévention et de prise en charge des cas qui surviendraient. Le ministre béninois de la Santé publique a appelé les populations à éviter tout contact avec les animaux de brousse et surtout de ne pas consommer leur viande. Je laisse la parole à Peggy Ludovic Dagba.
La résurgence du virus Ebola en Afrique de l'Ouest fait craindre à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et aux autorités en charge de la santé des populations de la région une contamination à grande échelle, vu la vitesse avec laquelle la maladie se propage. Le Nigeria voisin du Bénin, sur plusieurs centaines de kilomètres de frontières, vient d'enregistrer son premier décès, ce qui ravive la vigilance du ministère béninois de la santé. Lucien Toko, directeur national adjoint de la santé, nous parle ici du système de protection mis en place par le Bénin pour faire face à la situation.
La riposte ne change pas au niveau de la sous-région parce que c'est une riposte sous-régionale recommandée par l'OMS. Et cette riposte, c'est d'abord la surveillance. La surveillance des cas au niveau de nos frontières, ports et aéroports, pour que tous les cas, ces régions contaminées, ces régions où on a déjà découvert le cas, toutes les personnes provenant de ces régions, nous sommes en train, au niveau du ministère de la Santé, nous avons au niveau de ces postes-là, nous sommes en train d'enregistrer toutes ces personnes et on fait la surveillance, c'est-à-dire que nous avons tous leurs contacts et on les contacte régulièrement pour voir s'ils ne commencent pas à avoir des signes pour que nous puissions réagir aussitôt. Au niveau du CNHU, nous allons mettre en place un centre d'accueil des cas éventuels et avec tout le dispositif qu'il faut. Nous avons tout le matériel par rapport à cela.
Maladie très contagieuse, le virus Ebola se transmet facilement de l'animal à l'homme. Lucien Torco.
La transmission de cette maladie, à ce jour, nous avons identifié les animaux de la brousse, notamment le singe, chauve-souris, l'antilope, les rats, l'hérisson, l'agouti. Ce sont des animaux qui portent ce virus et puis qui peuvent le transmettre à l'homme. Et l'homme malade le transmet aussi facilement à travers ses sécrétions, toutes sécrétions biologiques, à savoir les selles, l'urine, le sperme, la salive, même la sueur.
Ainsi, il faut éviter tout contact avec les animaux de brousse. Et dès qu'un décès suspect intervient dans un environnement, en informer aussitôt le médecin-chef de la localité. Telles sont les recommandations du directeur national adjoint de la santé publique du Bénin à l'endroit des populations pour éviter la propagation rapide du virus. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
Washington, la Voix de l'Amérique, toujours concernant la fièvre hémorragique à virus Ebola, l'ONG Médecins sans frontières a réitéré son avertissement que l'épidémie de fièvre hémorragique est hors contrôle en Afrique de l'Ouest. Le docteur Bart Jensen, directeur des opérations de MSF, se dit très très inquiet. Certes, un travail de fond a été enclenché pour retrouver les patients cachés, les personnes entrées en contact avec les malades ou les victimes présumées du virus Ebola. Mais voilà, MSF redoute de ne découvrir que la partie visible de l'iceberg. La souche Zaïre du virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest peut tuer jusqu'à 90% des patients, rappelait récemment le Dr Jensen dans une interview avec La Voix de l'Amérique. On écoute une partie de cette interview en rediffusion.
Tant on peut trouver les personnes infectées en début de période de maladie, maintenant on a une forte idée qu'on peut avoir plus de chances de les faire survivre. Donc cela aussi nous pousse beaucoup pour avoir la capacité soit de rechercher les nouveaux malades, soit de les prendre en charge rapidement dans les conditions correctes.
Sinon, le taux de mortalité du virus à fièvre hémorragique Ebola de type Zaïre est d'environ 90%.
90%, c'est le chiffre qui est connu. De toute manière, il est très élevé. Actuellement, nous avons un chiffre, dans toute l'épidémie, 70 à 80%. Donc, c'est clair que cette épidémie est en train de nous apprendre encore plus sur la prise en charge d'une maladie de l'Ebola.
En ce qui concerne la prise en charge, donc, la préoccupation primordiale reste d'identifier les personnes avec qui les malades ont été en contact, puisque le virus est hautement contagieux.
Le virus est contagieux, certes. Il n'est pas si contagieux que, par exemple, une grippe. Donc, c'est vraiment le contact direct entre un malade ou une personne décédée d'Ebola qui permet de transmettre cette maladie. Le grand problème, évidemment, c'est une fois les personnes ont été infectées, leur chance de survie est pas très grande, c'est-à-dire que la mortalité est très élevée. C'est ça ce qui rend cette maladie, cette épidémie si dramatique.
Avez-vous un conseil à donner?
Il est très important que dans toutes les communautés affectées par l'épidémie, les messages doivent être bien transmis. Il est très important que chaque personne malade dans cette zone vienne se faire diagnostiquer rapidement pour être prise en charge rapidement. Et de l'autre côté, que certaines pratiques dangereuses pour la transmission, comme le contact direct avec les malades ou les personnes décédées, doit être limité au maximum.
Bien sûr, ce sont des cultures où les rites funéraires sont extrêmement importants. Les familles, traditionnellement, lavent le corps de la personne défunte avant de procéder à l'enterrement. Mais cette fois-ci, est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire appel aux services sanitaires pour qu'il dispose de la dépouille du défunt?
Tout à fait. Et cela est le cas dans chaque partie du monde où une épidémie Ebola sera déclarée. La prise en charge ou la gestion des corps des personnes décédées doit être faite d'une manière extrêmement prudente pour éviter toute nouvelle transmission de la maladie vers d'autres.
Le docteur Bart Jensen, directeur des opérations de MSF. Alors, pour rappel, la fièvre à virus Ebola est hautement contagieuse. Si l'on entre en contact avec les fluides des malades, sueur, saignement, sel, éternuement, bref, il est conseillé aux parents, aux familles de ne pas toucher les malades ou les morts présumés de l'Ebola, mais plutôt de faire appel au personnel spécialisé. Ce personnel, lui, saura comment se protéger contre la contagion. Washington, La Voix de l'Amérique, au micro Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé. Un nouvel anniversaire et un nouveau record pour le robot Opportunity de la NASA, l'agence spatiale américaine, qui sillonne la planète Mars depuis janvier 2004. Morgan Guiriec nous en dit plus.
Opportunity, qui avait été conçu pour se déplacer à environ 1 km de distance du site où il s'était posé sur Mars, vient d'établir un nouveau record de distance pour un véhicule roulant sur une autre planète que la Terre. En effet, en gagnant 48 mètres de plus dimanche, Opportunity a atteint exactement 40 km de distance de l'endroit où il a atterri en 2004. Le précédent record était détenu par le rover russe Lunokhod 2, qui a parcouru environ 39 km sur la Lune en 1973. Les scientifiques de la NASA prévoient de mener Opportunity jusqu'à la vallée dite Marathon Valley, dont ils veulent explorer les couches de minéraux argileux. L'espoir restant de trouver traces de vie, même éteinte, sur la planète rouge. Si le rover y parvient, il aura parcouru la distance d'un marathon, soit 42,2 km. La NASA ne s'attendait pas à l'origine à ce qu'Opportunity et son jumeau, le rover Spirit, tiennent plus de 90 jours avant de devenir inopérables. Mais si l'agence spatiale américaine a perdu le contact avec Spirit en mars 2010, Opportunity reste fidèle à l'appel et continue de répercuter des photos et des données scientifiques vers la Terre.
Micro dédié pour Carrefour Sciences et Santé, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite qui était célébrée le 28 juillet, l'Organisation mondiale de la santé s'est félicitée des récents progrès accomplis dans la lutte contre la maladie. Lionel Gaïma.
L'OMS rappelle que des millions de personnes dans le monde contractent les virus A, B, C, D et E de l'hépatite, alors que l'hépatite virale entraîne près de 1,4 million de décès chaque année. L'hépatite virale est une maladie assez négligée depuis plusieurs années, a déclaré le docteur Margaret Chan, directeur général de l'OMS, dans un communiqué. Mais aujourd'hui, nous commençons à constater qu'elle suscite davantage d'intérêt et qu'un nouvel élan est en train de naître pour la combattre. L'OMS a noté les progrès accomplis au cours de l'année écoulée dans le traitement de l'hépatite C chronique. Des médicaments nouveaux permettent aujourd'hui de proposer un traitement sûr et simple de l'hépatite C avec un taux de guérison supérieur à 90%, affirme l'OMS. Néanmoins, l'agence onusienne reconnaît que beaucoup reste à faire pour rendre ce traitement abordable et accessible pour les populations qui en ont le plus besoin, notamment le sofosbuvir proposé contre l'hépatite C par le groupe pharmaceutique américain Gilead Sciences coûte près de 1 000 $ par pilule.
Camille Grodidier pour Carrefour Sciences et Santé. Vous suivez un programme de La Voix de l'Amérique. L'Afrique a marqué cette semaine la journée panafricaine des femmes et au Mali, cette journée qui a été présidée par Madame Aminata Maïga Keïta, l'épouse du chef de l'État, s'est orientée sur l'accès des femmes et des filles à l'éducation, aux sciences et nouvelles technologies. Le thème de la rencontre, le rôle des femmes et des jeunes filles dans l'éducation, les sciences et les nouvelles technologies en vue d'une Afrique émergente. Je laisse Kassim Traoré en dire plus.
Les femmes du Mali, à l'instar de leurs sœurs d'Afrique, ont célébré la journée panafricaine de la femme, fêtée le 31 juillet de chaque année. Rôle des femmes et des jeunes filles dans l'éducation, les sciences et les nouvelles technologies en vue d'une Afrique émergente était le thème choisi au Mali. Diallo Kamassa Kliba, secrétaire exécutive de l'Organisation panafricaine des femmes, section Mali.
Nous avons vu que le monde se modernise. Il y a eu des nouvelles technologies auxquelles les femmes doivent s'adapter. Et c'est dans ce sens que l'OPF a choisi le thème de l'éducation, des sciences et des nouvelles technologies. Nous sommes dans un monde globalisé et on met l'accent actuellement sur l'excellence. Et on ne peut pas être excellent aujourd'hui en faisant fi de ces technologies.
Au Mali, les femmes sont au nombre de 5 dans le gouvernement sur 31 membres, soit 20%, 14 sur les 147 au niveau de l'Assemblée nationale et 927 sur les 10 774 conseillers municipaux, soit moins de 10%. Pour inverser cette tendance, les femmes doivent se battre dans tous les domaines. Gaku Salamata Fofana, présidente des femmes ingénieures du Mali.
La science et les techniques sont liées à la vie. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Tout ce que nous faisons comme activité, même aujourd'hui parler à la télé, ça fait partie de la science. Parler au téléphone, ça fait partie de la science. Il faut démystifier pour faciliter. Il y a certaines dispositions que nous avons recommandées. Revoir le curricula, prendre en compte la participation des filles. Et il faut aussi former les enseignants.
Dans les établissements scolaires, les filles commencent à s'intéresser aux matières scientifiques. Cela n'était pas le cas il y a de cela 10 ans.
J'ai choisi les sciences parce que la profession que je vais exercer, la médecine, ne peut pas se faire sans l'appui des sciences.
Au début, j'avais peur, mais les gens m'ont encouragé d'aller faire les sciences parce que c'est une bonne matière. Les mathématiques, c'est un peu difficile, mais en faisant des exercices, on peut s'en sortir. Bon, j'aimerais être ingénieure de la télécommunication.
Aujourd'hui au Mali, bon nombre de femmes excellent dans les domaines de l'élevage, la pêche, l'agriculture, à l'image de Djao Kadiatoutal, qui est une Amazone dans le monde agricole au Mali. Elle cultive chaque année 5 hectares.
Quand on arrive à faire 70 à 80 tonnes par hectare, avec le nombre d'hectares qu'on a, les femmes qui sont dans l'agriculture souhaiteraient qu'on puisse consommer malien.
De plus en plus, les femmes maliennes commencent à prendre conscience. Elles n'attendent plus pour être servies. Elles se battent comme les hommes afin de mériter leur poste. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Camille Grosdidier, suivez avec nous Carrefour Science et Santé, un programme que vous pouvez suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Il semblerait que pour assurer le succès d'une thérapie contre le cancer du sein, une malade doive rester dans l'obscurité la plus totale durant la nuit. Michel Joseph.
En effet, s'exposer à une quelconque source de lumière artificielle semble provoquer une résistance au traitement par tamoxifène, thérapie phare contre ce type de cancer. C'est ce qu'affirment des chercheurs de l'école de médecine de Tulane à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, alors que la résistance au tamoxifène est une source de préoccupation croissante au sein de la communauté médicale. Selon leur étude, parue dans la revue Cancer Research, des tests sur des rats femelles souffrant de cancer du sein ont montré que si elles étaient exposées à la moindre lumière pendant la nuit, elles produisaient moins de mélatonine, substance qui aide à réguler le sommeil chez les humains. Or, la mélatonine étant supprimée, les cellules cancéreuses se réveillaient et ignoraient le tamoxifène. Bref, il s'agit pour les femmes qui tentent de guérir d'un cancer du sein d'éviter les veilleuses, lampes de chevet, écrans d'ordinateur, télévision et autres sources de lumière électrique pour rester dans l'obscurité la plus totale. Ce qui pourrait aider leur organisme à ne pas devenir résistant au traitement par tamoxifène.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé. Et pour finir cette édition de ce programme qui vous est proposé chaque semaine par La Voix de l'Amérique, eh bien, sans le désert du Sahara, voilà, les îles Bahamas dans la mer des Caraïbes n'existeraient pas. C'est ce qu'affirment des chercheurs de l'Université de Miami en Floride. Jacques Aristide.
Eh bien, ce n'est pas un mirage. Il s'agit d'une vraie étude menée par des chercheurs de l'Université de Miami en Floride qui ne veulent certainement pas prêcher dans le désert. D'après eux, la beauté paradisiaque des Bahamas ont vu le jour grâce aux poussières riches en fer du Sahara transportées par les vents au-dessus de l'Atlantique, une épopée de quelques 8000 km. Ces poussières ont nourri les bactéries fabriquant le carbonate de calcium qui a permis aux îles Bahamas d'émerger de la mer, un processus qui a pris une centaine de millions d'années. Leurs travaux, réalisés sous la direction du géologue Peter Swart, ont été publiés dans la revue Geology. Les scientifiques affirment avoir trouvé des concentrations élevées de deux éléments caractéristiques du sable du Sahara dans des échantillons prélevés au fond de la mer le long de la banquise des Bahamas. Ces sédiments, expliqué M. Swart, ont été créés par les cyanobactéries qui ont besoin de 10 fois plus de fer que les autres organismes photosynthétiques parce qu'ils fixent l'azote atmosphérique. Un processus qui produit du carbonate de calcium, cette même matière qui entoure maintenant la chaîne des îles Bahamas. Et voilà donc comment, sans le Sahara, l'archipel des Bahamas n'existerait pas.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivie.